Merci. Monsieur Amalric, alors je vais être beaucoup moins lyrique que lui, et beaucoup plus scolaire sans doute, et je m'en excuse à l'avance. Hein. Je suis historienne certes, mais pas moderniste, c'est pas du tout ma spécialité. Mais voilà, l'idée de cette conférence, elle revient à Thierry Leroy, que je ne remercie pas parce que du coup, il m'a fait travailler pendant les vacances quand même. Mais voilà, c'est moi qui ai eu l'idée de la Révolution, de partir, parce que lui, son idée, c'était que je reprenne un petit peu les émissions de Georges Julien, les émissions de radio. Je me suis dit, pourquoi pas, bon, ça peut être intéressant. Et donc, j'ai choisi la Révolution un peu arbitrairement, parce que ça me semble être une période connue comme ça, mais en fait pas tant que ça en dehors des événements politiques, notamment au niveau local. Et en tout cas, en ce qui me concerne, moi je savais pas très bien ce qui s'était passé à Saint-Antonin. Et comme je suis assez attachée dans mon enseignement à partir du local pour ensuite partir au national, faire quand même dans la mesure du possible un petit peu d'adaptation des programmes. Bon, voilà. Donc moi, ça m'intéressait de savoir un petit peu ce qui s'était passé. Et donc, je me suis lancée dans cette aventure. Alors, les émissions de Georges Julien, ben, vous les connaissez sans doute, pour certains d'entre vous. Donc, en fait, ça a été le grand archiviste et il a dépouillé beaucoup d'archives. Il a quasiment, il a couvert une grande partie de l'histoire Saint-Antonin. En tout cas, moi, ce que j'ai, c'est, ça s'arrête à la fin de la Révolution. Donc, c'était une émission de radio réalisée en 83-84. Pour Radio Nobleval, qui s'intitulait « En parcourant les archives ». On va peut-être écouter un extrait quand même. Merci Nicole. Petite minute.
Fut exécuté en public le 14 juillet 1794 pour célébrer le 5e anniversaire de la prise de la Bastille. La victoire, en chantant, nous ouvre la carrière, la liberté guide nos pas.
Monsieur Julien, depuis plusieurs semaines, vous nous décrivez les faits marquants de la Révolution française, qui a duré plusieurs années. Aujourd'hui, vous allez nous décrire la vie à Saint-Antonin pendant la Révolution française.
Quelques aspects de la vie à Saint-Antonin pendant la Révolution française, étant donné que c'est pas facile de décrire une période pareille. Surtout quand on dispose d'une documentation énorme accumulé dans nos archives pendant cette période révolutionnaire. Cette énorme masse de documents traduit l'intensité de la vie municipale, faite d'innombrables réunions. Certains mois, on compte jusqu'à 10 réunions du conseil municipal, qu'on appelait alors conseil général de la commune. Faites aussi d'assemblées électorales diverses, on votait beaucoup. De rassemblements et de fêtes civiques, d'enquêtes, de recensements, de réquisitions, de visites domiciliaires, sans parler de la mise à exécution des mesures administratives que multipliait le pouvoir central.
Voilà, je voulais quand même faire...
C'était très bon.
Hein ?
On peut applaudir, Georges-Julien.
Oui, tout à fait, on peut l'applaudir. Non, mais je trouvais intéressant de l'entendre. Alors, en fait, on entend trois personnes. Hein. C'est d'abord sa femme qui participait aux émissions en mettant en musique. Et elle choisissait tout à fait scrupuleusement et elle expliquait ses choix. Et ensuite, il y avait Patrick Mille, hein, je crois, qui faisait le rôle de l'intervieweur, du relanceur. Donc, c'est super intéressant. Donc, moi, j'ai 47 émissions. Je ne sais pas s'il a été au-delà de la Révolution française. Voilà. Donc, il a étudié, comme il le dit très bien dans cet extrait, les archives de la mairie. C'est-à-dire que pour un travail vraiment approfondi, c'est vrai qu'il faudrait recouper avec d'autres sources, et là ce serait intéressant d'avoir des sources ou notariales, état civil, archives privées, etc., qui doivent exister, mais voilà, donc ça vaudrait le coup. Et puis son étude, elle porte exclusivement sur Saint-Antonin, et en même temps la comparaison avec ce qui se passe à côté, on le verra, est nécessaire pour comprendre le sens de l'histoire locale. Monsieur Amalric en a déjà parlé. Et ce qui se passe à Saint-Antonin n'est pas toujours forcément symptomatique de ce qui se passe dans la région ou même à l'échelle nationale. Alors moi, quand j'ai commencé à écouter les émissions de Georges Julien, je me suis dit, il n'y a pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose à Saint-Antonin, finalement. On a l'impression que la vie quotidienne d'une petite ville de province, eh bien, elle continue malgré les événements, et que tout ça semble très, très éloigné du tumulte parisien. Alors, en fait, en discutant avec Monsieur Amalric, on a essayé de voir un petit peu quelle était l'originalité des événements à Saint-Antonin et de mettre en évidence, comme il l'a très bien dit, des évolutions plus profondes. Alors pour étoffer cette conférence, mais je vais essayer de ne pas faire trop long quand même, parce que M. Amalric a déjà dit beaucoup de choses aussi, je vais essayer d'aller un peu plus loin que 1789 et m'arrêter à la coupure de 1792 avec l'installation de la République. Donc, quelle est la situation au début de l'année 1789 ? Donc à Saint-Antonin, c'est une petite ville du territoire, de la marge du territoire, du Rouergue, qui compte environ 5600 habitants. Ça, c'est le recensement de 1793 qu'il a dit. Alors entre-temps, bon, il y a eu un peu quelques levées, etc. Mais enfin, on est dans cet ordre d'idées. Elle est donc sous l'autorité de l'Assemblée de Haute-Guyenne. Je n'y reviens pas. Création tardive, assez impopulaire, etc. Puisqu'en fait, rassembler le Quercy, le Rouergue comme ça pour Saint-Antonin, ça va pas de soi. On le verra. La ville est gouvernée par un conseil municipal, c'est peut-être intéressant de le souligner, qui est indépendant, puisqu'en fait, la commune avait racheté l'office de maire à deux reprises. Cet office avait été vendu d'abord par Louis XIV, qui avait besoin d'argent, et puis ensuite revendu par Louis XV, qui avait de nouveau besoin d'argent également. Donc là, il est indépendant, l'office de maire, il appartient, il est communal. Et le conseil municipal de 1789, on a un maire qui est médecin, Guillaume Lacombe, et tout le reste, ce sont des avocats. Donc, puisque la ville compte évidemment pas mal d'avocats, des bourgeois, des commerçants, des artisans, très peu de nobles, on le sait. Le principal représentant dont il sera question dans cette conférence, c'est le comte de Lastic Saint-Jalles. Par contre, un certain nombre de congrégations religieuses, en tout cas sur le papier, il y avait 4 couvents d'hommes à Saint-Antonin, mais qui semblent être sur le déclin, puisque pour une cinquantaine de places, en fait, on recense, enfin Georges Julien recense, 17 moines ou chanoines et 3 convers. Ça fait une vingtaine de personnes, ce qui est très peu. Je le souligne parce que ça a son importance pour la suite. Bon, et puis dans cette population, pas mal d'indigents aussi, on va en reparler, qui sont évalués à plusieurs reprises dans différentes archives au nombre de 800, donc évaluation faite par la mairie, ce qui représente 15% de la population totale. Donc, début 1789, la situation locale, elle est terrible, comme partout en France, puisqu'on a un compte-rendu du maire qui parle des récoltes absolument catastrophiques de l'été précédent, donc 1788, avec des orages, de la grêle, etc. Énormément de ravinements aussi, hein, puisqu'il y avait beaucoup moins de forêts à cette époque. Ravinements, l'eau qui entraîne tout, les terres, etc. Et puis il parle d'une misère, de mendiants, d'une humanité souffrante, tout ça dans un style extrêmement pathétique. Mais il rencontre d'une terrible réalité, c'est-à-dire que l'hiver 88-89 est très rude, le froid était exceptionnel, les récoltes de l'année précédente n'ont pas été bonnes, et donc la famine est là, le peuple manque de pain, comme partout en France. Donc que fait la municipalité, qui a l'air bien soucieuse de la situation ? Elle affecte un reliquat d'imposition à l'achat de nourriture pour les plus pauvres, et elle va créer des ateliers de charité. Pour les nécessiteux valides, en échange de nourriture, ils vont réparer la banlieue de la ville, comme ils disent, c'est-à-dire les avenues, les fossés, etc. Et ça, je le souligne aussi parce que ça revient souvent, c'est-à-dire c'est la municipalité, de la mairie de Saint-Antonin se préoccupe beaucoup de ces indigents, pour différentes raisons, on y reviendra, mais voilà, elle essaie toujours de pallier quand même à la situation. Donc au total, 10 tonnes de pain seront achetées, par exemple, ce qui est assez, assez considérable, et donc distribuées à ces fameux indigents évalués à 800. Janvier 89, c'est également le moment que choisit le roi pour annoncer la convocation des États généraux, on le sait, les caisses de l'État sont vides. Et dans la société littéraire dont a parlé M. Amalric, eh ben, on imagine bien que ça passionne les nobles, les bourgeois, les riches marchands, les chanoines qui s'y réunissent. Et que certainement des réformes de M. Necker, qui est très populaire en France à l'époque, il doit être question. Donc, il y a d'abord les élections aux États généraux. Alors, pour Saint-Antonin, c'est simplement l'élection concerne que le tiers-État, mais certainement le clergé et les nobles ont dû voter ailleurs, puisque le comte de Lastic a été élu, visiblement. Moi, je l'ai retrouvé sur une liste. Donc, ils ont dû voter dans une autre paroisse. Et puis ensuite, en fait, les 46 délégués de Saint-Antonin se sont réunis avec tous les autres sur Villefranche, la Seine-et-Chaussée. Et ensuite, là, ils ont élu les délégués qui partaient pour Paris. Donc, Aucun saint antoninois n'est allé à Paris à cette occasion-là. Et puis ensuite, la grande affaire, évidemment, pour ces 46 délégués, hein, qui représentent vraiment l'ensemble de la population. Et c'est assez intéressant d'ailleurs parce qu'on voit que toutes les corporations qui ont chacune un ou deux délégués sont représentées. Il y en a une liste incalculable. Ça donne une idée de la vie des métiers de Saint-Antonin. Donc ils vont rédiger ces fameux cahiers de doléances dont un exemplaire est conservé aux archives, hein, l'exemplaire de Saint-Antonin. Donc c'est assez intéressant. On a regardé ça avec Monsieur Amalric. Donc ces cahiers de doléances, bon, on sait qu'ils ont été faits sur des modèles en circulation. Hein, donc il y a plein de choses qui sont très classiques. Ils sont en trois parties, 47 articles au total. Alors qu'est-ce qu'on apprend de ces cahiers ? Eh bien que d'abord beaucoup de propositions auraient pu être faites ailleurs, parce que modèle de cahier oblige, notamment en ce qui concerne les revendications politiques. Elles sont tout à fait classiques, le vote par tête et non par ordre, le rôle accru des parlements de province, pardon pour le son, la fin de la lettre de cachet, la liberté d'imprimer. Beaucoup de demandes également à l'encontre du clergé, il y a toute une rubrique, tout un chapitre là-dessus, avec diminution du revenu des hauts clergés, la suppression des abbayes. En même temps, l'augmentation des revenus des curés et des cures, ce qui est assez étonnant. Mais en fait, l'idée, c'est qu'ils assurent la charité et de réduire la mendicité. Bon, pourquoi pas. Réformer qu'est-ce qu'ils veulent faire aussi? Oui, reculer l'âge des vœux, etc. Enfin, on a quand même l'impression que les quatre couvents de Saint-Antonin n'ont guère de partisans. Bon, et évidemment, ces cahiers, ils ont été rédigés par des notables, hein, puisque les élus qui ont rédigé les cahiers, ce sont des avocats. En plus du maire, donc il demande énormément de choses pour la bourgeoisie. Ça, c'est également tout à fait classique. Après, ce qui est étonnant, ce qui nous a surpris, c'est qu'en fait, et moi j'ai compté ensuite sur les cahiers de doléances, c'est que le quart des articles concerne les impôts, les taxations sur le domaine agricole, avec même des droits que M. Amalric ne connaissait pas. Donc il s'agit de les réduire, les aménager, les supprimer, etc. Enfin, sur le quart des articles, ce qui est quand même assez important. Et en même temps, c'est surprenant, parce que les rédacteurs de ces cahiers sont quand même des bourgeois, des notables de la ville, donc des urbains. Donc on peut supposer que des terres autrefois propriété des nobles ont dû être rachetées par des bourgeois et qu'ils ont envie évidemment d'avoir les mêmes droits, les mêmes privilèges que les nobles, et que cette petite ville de province a dû se ruraliser au cours du XVIIIe siècle. Les activités artisanales et industrielles, elles persistent, la papeterie par exemple, mais sans doute qu'elles périclitent légèrement et qu'en tout cas beaucoup de bourgeois ont dû investir dans la terre. Et par ailleurs, et donc ils vivent évidemment des rentes et des revenus fonciers. Bon, c'est un peu recoupé par le fait qu'il y a eu pas mal de constructions justement à l'extérieur de la ville à cette époque-là, et on imagine très bien les bourgeois partir l'été, hein, prendre l'air et surveiller les moissons, bien sûr, pendant la belle saison. Une fois que les cahiers, donc les élus, les délégués sont élus, les cahiers sont rédigés, eh bien l'effervescence retombe et la ville retourne à ses activités habituelles et rien dans les archives n'évoque finalement la Révolution. Donc la question suivante, c'est comment la Révolution arrive-t-elle à Saint-Antonin à l'été 1789 ? Eh bien, elle arrive, alors à partir de début août, il y a des procès-verbaux qui laissent entendre qu'il s'est passé des choses. La prise de la Bastille, on la qualifie de révolution mémorable, mais c'est tout. Des autres événements parisiens, il n'est absolument jamais question. Et puis, début août, un événement exceptionnel arrive, qui va être relaté, en fait, en septembre. Alors, il y a eu un épisode de panique, ce qu'on a appelé au niveau national la grande peur, qui s'est tenue 31 juillet, 1er août, 2 août. Et là, le 31 juillet, arrive un courrier des consuls de Sept-Fonds disant que 30 000 hommes sont sur les routes, ont investi, dévasté Cahors, c'est la catastrophe, etc. Donc, le tocsin, l'alarme, et voilà, tout le toin-toin. Donc, tous les hommes armés du coin arrivent sur Saint-Antonin, alors armés, hein, les faux, les broches, les piques, hein, des haches, mais certainement pas beaucoup d'armes, en tout cas. 2 heures après, nouvelle lettre. Bon, finalement, c'est 4000 brigands, donc on change un petit peu d'échelle. Mais enfin, tout le monde reste sur ses gardes, on ne dort pas, on monte la garde. Enfin, il y a toutes des relations comme ça. C'est très précis, très détaillé. Pareil, encore, on accueille des gens qui viennent défendre la ville et qui viennent de l'Albigeois, de Verfeil, de Najac, etc. 1er août, ça continue. On s'organise, il faut nourrir tout ce monde-là, ça, ce qui n'est pas simple non plus. Le 2 août, on entend dire que l'abbaye de Beaulieu, ça y est, elle a été incendiée, les brigands sont là, sont à nos portes, etc. Enfin, c'est absolument, ça a l'air tout à fait alarmant. Et puis, la nouvelle, on nous dit, la nouvelle se trouve à Fos. Bon, voilà. Donc, ni plus ni moins. En fait, c'est ce qui s'est passé au niveau national, c'est-à-dire une espèce de panique générale, sans aucun fondement réel. Née de nouvelles colportées, propagées de ville en ville, depuis Cahors, ici visiblement, mais peut-être même depuis plus loin, depuis Paris. Une espèce de psychose collective. Hein, finalement. Donc on sait que cette panique, elle a été générale à l'été 89, que il y a eu des châteaux de brûlés, des terriers également. Évidemment, pas à Saint-Antonin, puisqu'il n'y avait pas de château. Alors, il n'y a que l'abbaye de Beaulieu. Juste cette fausse nouvelle, peut-être parce que c'était une abbaye qui était très riche, et donc les privilèges la faisaient... peut-être que la faisaient assimiler à tout ça, donc c'est pour ça qu'on a parlé de Beaulieu. Bon, l'origine de ces rumeurs, elle reste floue. On sait que ça démarre autour du 20 juillet, que pendant longtemps, on a parlé d'hypothèses, de coups montés, les aristocrates, le haut clergé, la franc-maçonnerie. Bon, en fait, c'est vraiment une affaire de peur. On est l'été 1789, on est au moment des moissons. Il s'agit là que les récoltes soient bonnes, il faut que ça rentre parce que ça a été trop difficile l'année précédente. Et c'est vrai que certainement sur les routes, les indigents, des errants, des gens qui sont là, qui sont peut-être dans les champs, près des champs, etc. Et que c'est la panique, hein, que la population se dit si les récoltes sont anéanties, qu'est-ce qu'on va devenir, etc. Et puis peut-être aussi dans les mémoires collectives, le souvenir... de brigands fameux, plus anciens, peut-être même des histoires qu'on se raconte, de lointaines invasions, etc. En tout cas, à Saint-Antonin, la première réaction, c'est de renvoyer tout le monde à la maison parce que ça coûte cher. Hein, ça, c'est bien noté que les hommes à nourrir, alors nourrir, c'est du pain, mais il faut du vin quand même pour tous ces hommes. Et ça, c'est pas possible. Hein. Donc, dès le 2 août au soir, tout le monde doit rentrer parce qu'il est bien noté que ça coûte très cher. Mais pas que. Il n'y a pas que cette réaction de la part de la... de la mairie, la mairie prend conscience que il y a quand même une inquiétude à avoir et que leur situation est peut-être assez précaire. Donc, ni plus ni moins, il crée en fait une garde bourgeoise. 20 compagnies de 25 hommes, ça fait quand même 500 hommes en armes dans Saint-Antonin, qui vont veiller toutes les nuits, quartier par quartier, 20 compagnies avec évidemment un lieutenant et puis des bourgeois, mais pas que, parce qu'il faut recruter 500 hommes. Donc voilà, c'est quand même énorme, 500 hommes en armes, et ça ne dort pas. Mais voilà, cette milice bourgeoise, en fait, elle va se transformer en garde nationale. Hein, c'est ce qui va faire l'armature de la garde nationale de Saint-Antonin. Et puis, les bourgeois pensent qu'ils vont être contents, d'autant qu'ils ont nommé à sa tête le comte de Lastic Saint-Jalles, dont c'est la première apparition dans les affaires publiques au moment de la Révolution. Et la mairie retourne à ses affaires courantes. Donc, de nouveau, nourrir les indigents, c'est la préoccupation principale qui revient. Réparer éventuellement la tour de la maison consulaire qui s'est écroulée déjà, mais qui sera finalement pas réparée. Et puis taxer le prix du pain pour prévenir en fait une trop forte hausse en cas de pénurie. Le calme revient, on moissonne, donc l'été passe tranquillement, mais la révolution n'est quand même pas loin, puisque dès le mois de septembre, il y a une première élection consulaire, qui ne se passe pas comme d'habitude, hein, parce que les élections consulaires étaient assez... c'était un peu le jeu des chaises musicales entre notables, une dizaine d'hommes. On change plus ou moins, mais bon, entre soi. Et puis là, il y a quand même des conseillers politiques qui disent non, il faudrait faire ça un petit peu mieux, il faudrait renouveler, il faudrait que ce soit avec une pluralité des suffrages, etc. On a l'impression qu'ils veulent plus de cette cuisine électorale en cachette. Donc ils discutent, et puis à ce moment-là, il y a l'éruption d'un homme du peuple, Jean Revel, dit Kerle, qui arrive et qui, lui, demande que l'élection soit faite au pré-commun, hein, donc sur la route de Caylus. Et que si on n'est pas d'accord, 50 grenadiers seront là pour soutenir sa demande. Enfin, c'est voilà, tout ça est très très bien relaté, mais dans un but qui n'est pas anodin. Et on souligne bien d'ailleurs dans ce compte rendu, c'est assez amusant que l'homme il est mal habillé, qu'il a un bonnet sur la tête. On soupçonne qu'il a bu. Hein, bon, voilà. Mais en fait, parce qu'en fait, cet homme, ils vont essayer ensuite de le faire limoger. C'est pour ça qu'ils mettent moult détails. C'est assez rigolo. Et cet homme, il est bien connu, et c'est pas innocent si c'est lui qui fait cette demande populaire, on va dire, parce qu'il demande même par jeu à aux notables de, voilà, il cite même des noms qui viennent, oh là là, c'est monstrueux, de la lie du peuple, hein, c'est comme ça que c'est relaté. En fait, ce gars est le porteur, d'accord, de Saint-Antonin à Montauban, donc c'est lui qui transmet les messages. Donc en fait, il est très au courant de ce qui se passe sur Montauban, et puis même ailleurs, hein, donc c'est pas étonnant que ce soit lui. Donc ils vont faire tout un tas de courriers, on voit ça dans les archives, pour qu'il soit limogé, puis en fait non, il va pas être limogé, c'est pas possible, donc ils vont garder le fameux Revel comme messager. En tout cas, la demande des conseillers politiques, elle a été entendue, puisqu'il y aura un renouvellement complet des notables. Donc, on sent quand même que là, les notables, ils doivent faire attention. Ils n'ont plus tout à fait le champ libre. Donc, ce premier mouvement démocratique va s'accompagner d'un sentiment patriotique, hein, comme partout en France également. Et le 27 septembre, toujours en 1789, va se tenir une grande cérémonie d'intronisation de cette fameuse milice qui n'est plus bourgeoise mais nationale, et au même moment se tient évidemment à Paris la même chose pour introniser la garde nationale avec Lafayette. Donc serment, les drapeaux tricolores qui font leur apparition, qui sont tout neufs, achetés à Montauban, il y a le montant, etc. Donc la révolution arrive, hein, mais au rythme de Saint-Antonin, donc ce n'est pas énorme, mais quand même les choses bougent. À la fin de l'année 1789, ce qui domine malgré tout dans les préoccupations de la mairie, c'est la misère. Et là, les textes sont encore une fois tout à fait dans un style pathétique, tout à fait étonnant. La ville décide d'emprunter, même de faire un emprunt assez conséquent pour nourrir tout le monde. Parce que l'hiver arrive, on n'est pas sûr du tout de tenir encore l'année. Et là, le maire a des arguments choc, hein, qu'on connaît très bien, c'est-à-dire que il rappelle que ceux qui n'ont rien peuvent tout oser et entreprendre. Hein, c'est noté noir sur blanc. Donc, ils ne prennent pas de risques, hein, les bourgeois de la ville. Ils organisent l'achat de blé, l'organisation d'ateliers de charité, une fois de plus. Donc, ils sont extrêmement prudents. Donc, on a l'impression, voilà, qu'ils suivent l'air du temps, la garde nationale, le renouvellement des élus, le drapeau tricolore, tout ça, ça se fait. Mais ils sont quand même très prévoyants et craignent tout débordement populaire, donc en fait, ils font tout pour l'éviter. Alors, pour avancer un petit peu, bien voyons maintenant comment Saint-Antonin va suivre les transformations de la France pendant la brève période de la monarchie constitutionnelle, donc jusqu'en 1792. Bien, la vie locale va se faire le reflet des événements nationaux, mais toujours à la manière de Saint-Antonin. Donc la première question importante pour Saint-Antonin, Monsieur Amalric en a parlé à demi-mot, c'est le découpage administratif. Puisqu'en fait, à la fin de 1789, les projets de création des départements occupent le devant de la scène. Il y a deux projets qui s'opposent, Rabault-Saint-Étienne, des députés très, très influents. Et donc là, Saint-Antonin, c'est la panique, hein, chez le conseil municipal, parce qu'en fait, leur première demande, c'est d'être chef-lieu de district. Donc ils envoient des pétitions signées par plus de 100 personnes, avec tout un tas d'arguments disant que Saint-Antonin, c'est d'abord aux confins de trois provinces, hein, Quercy-Rouergue et Languedoc. Il signale ça, pas que Quercy-Rouergue, malgré la création de la Haute-Guyenne, que c'est une grande ville, ils exagèrent, hein, ils gonflent les chiffres, qu'elle paye beaucoup d'impôts, qu'elle est très ancienne, et puis qu'elle est très éloignée de tout, donc voilà. Bon, finalement, ça va pas marcher, Mirabeau, Rabault, Saint-Étienne accusent réception, mais ils donnent pas satisfaction, donc Saint-Antonin ne sera pas chef-lieu de quoi que ce soit. Alors après, Saint-Antonin va se rabattre sur la demande. Surtout, on veut pas être dans l'Aveyron avec Rodez, hein, ça c'est pas possible. Bon, finalement, ils échouent aussi, ils sont dans l'Aveyron avec Rodez, parce qu'entre-temps, ils vont appuyer la demande de Montauban, qui ne sera pas non plus chef-lieu, donc ils échouent sur toute la ligne. La ville y perdra quand même quelques juges, quelques greffes, et on peut être un peu surpris, hein, de la mobilisation de Saint-Antonin pour être rattaché à Montauban. Et surtout éviter Rodez, hein. On a quand même l'impression que Rodez, voilà. Bon, c'est vrai que c'est un peu loin, le trajet est lent à l'époque. Oui. Bon, après, on peut, voilà, on peut se dire, est-ce que c'est l'héritage des guerres de religion, un passé protestant commun? Bon, certainement, il y avait des échanges familiaux très forts, une connivence importante avec des liens au sein de cette bourgeoisie protestante. Et d'ailleurs, lors des événements terribles du 10 mai 1790, donc moi j'ai lu qu'effectivement Saint-Antonin, qui se déroule à Montauban, Saint-Antonin envoie des émissaires pour essayer de calmer le jeu, puisque en même temps Bordeaux envoie des troupes, envoie des hommes. Donc voilà, donc ils sont vraiment très attachés à Montauban. Donc ça occupe la mairie une grande partie de l'année, puisque le projet avance lentement, mais ils n'obtiendront pas satisfaction. La deuxième chose importante, bien, c'est le droit de vote au suffrage restreint qui va faire son apparition dès le mois de février, puisqu'il y a une nouvelle élection qui se passe au suffrage restreint. Donc, c'est suffrage censitaire, donc on paye un certain nombre. Il faut une imposition, je crois, à 3 journées de travail et plus de 21 ans. Bon, c'est le début de la démocratie. Et encore une fois, beaucoup moins d'avocats qui vont être élus, plus de marchands. Encore une fois, c'est le renouvellement des élites. Les anciens ne sont pas réélus. Donc, il y a un bon renouvellement. Mais le maire est un juge. C'est le fameux François Pomies, d'accord, qui va démissionner un an plus tard parce que il sera élu député à l'Assemblée législative entre 91 et 92. Donc, il va démissionner. Mais il va être maire. Hein, donc là, sur la plaque, c'est marqué maire à partir de 1800. En fait, il a déjà été un petit peu avant. Voilà, donc tout le monde commence à s'appeler citoyen, citoyen élastique par-ci, par-là, on le voit dans les différents documents. Et ce sentiment patriotique, il est assez fort, puisqu'on est un an après la prise de la Bastille, c'est donc la fête de la Fédération. Donc, des gardes de Saint-Antonin vont aller à la fête de la Fédération de Villefranche le 1er juillet, à celle de Toulouse le 5 juillet, et vont monter même à Paris sur le Champ de Mars le 14 juillet. Donc, à Saint-Antonin, on est quand même... un petit peu dans le coup. Dernière, troisième et épineuse question, on va dire, c'est le règlement de la question religieuse. On a vu qu'à Saint-Antonin, il y avait pas mal de couvents. Et en fait, elle démarre assez tôt, cette question, lorsque les vœux sont supprimés, du coup, les ordres sont supprimés, etc., dès 1790, donc dès le début de la Révolution. À Saint-Antonin, aucun drame n'est à relever. Les couvents étaient de toute façon vides. Et à cette occasion, les religieux ont quitté les couvents pour habiter dans la ville, participer à la vie municipale. Quand le serment est demandé l'année suivante, tous les ecclésiastiques prêtent serment. Aucun problème, ils étaient 17, ils ont tous prêté serment. Et quand, après l'arrestation, après la fin du roi, en fait, il y en a un seul qui va revenir sur ses vœux, c'est le vicaire de Sainte-Sabine. Alors François Joanny, et qui va pratiquer lui aussi le culte clandestin auprès du bosque, et puis ensuite il va s'enfuir, et ses oncles, pareil, seront persécutés un petit peu, en tout cas ils seront emprisonnés à Bordeaux. Mais sinon, rien de tel sur Saint-Antonin, donc pas de persécution, puisqu'ils sont tout à fait, ils prêtent serment, il n'y a pas de souci. Alors est-ce que, ça c'est ce que Georges Julien dit aussi, il aime bien ce genre de petites histoires-là, l'histoire des cloches. Alors peut-être que des objets de valeur ont été cachés, on ne sait pas où, etc. Mais en tout cas, peut-être avec la complicité de la population, voire des officiers municipaux. En tout cas, tout se passe bien, a priori, voilà. Et là encore, c'est intéressant de voir ce qui se passe à côté, parce que c'était pas du tout la majorité. Hein. En France, les prêtres assermentés n'étaient pas majoritaires. Donc le cas de Saint-Antonin est vraiment intéressant et étonnant. Et en 1793, il y a une archive qui est intéressante et que bon, j'aurais pu montrer, mais bon, j'avais pas pris, pas d'image à montrer aujourd'hui, mais il y a Caylus, qui n'a plus du tout de prêtres assermentés, lui, qui, la ville n'a que des prêtres réfractaires, demande à Saint-Antonin un coup de main pour dire une messe, hein, parce que, et voilà, et même il recrute, hein, il y a une offre, ils recherchent un curé, ils fournissent le logement, tout ça, il n'y a pas de souci. Ils sont vraiment en panne de curé, mais bon, donc il y a un prêtre qui va les dévouer pour dire une dernière messe, hein, bon, c'est ce qui est marqué sur la feuille de route, puisqu'il y a sur l'archive la réponse de la mairie, mais bon, le prêtre Thomas, il va pas faire long feu puisqu'il va même se marier. Donc ils n'ont pas tiré le bon. Mais bon voilà. Donc c'est assez rigolo. Bon, alors que penser de ça? Bien, à moins de parler de déchristianisation, ça c'est Michel Vauvel qui emploie le terme, c'est peut-être un peu fort. En tout cas, une décléricalisation, ça c'est clair. Une fois que cette question est déjà réglée, on reviendra ensuite sur une analyse. C'est les biens nationaux, puisque les biens du clergé sont déclarés biens nationaux assez rapidement. Alors les biens du clergé, c'est les bâtiments, c'est les terres, mais c'est aussi le mobilier, le linge, etc. Donc l'inventaire va se faire chaque fois en deux temps, l'inventaire et la vente, les biens, les terres d'un côté, les meubles et les objets d'un autre. Donc les enchères auront lieu à Villefranche, la vente aux enchères. La municipalité, concernant les terres, la municipalité de Saint-Antonin avait bien fait les choses, elle a fait plein de lots, il y a une liste de lots comme ça incalculable, ce qui fait que même des laboureurs évidemment sont acquis plus de terres, mais des gens qui n'avaient pas de terres ont pu devenir propriétaires comme des brassiers, etc. Il y a plusieurs noms, donc ça c'est quand même assez intéressant. Et puis, alors les immeubles, évidemment, ils ont été acquis par des riches bourgeois, parce que là, les prix se sont envolés. Donc, par exemple, on avait Coste-Jean pour 20 000 livres, acheté par un ancien juge royal. Les aubergistes aussi, deux aubergistes, Delta et Piquet, qui achètent chacun un couvent. Les Carmes pour l'un, Cordeliers pour l'autre. Et alors, le plus gros, le plus beau lot, c'est Beaulieu. D'accord. Et les deux lots sont acquis par la même personne, c'était l'abbaye et le domaine, par Joseph Penet, qui est un nom bien connu ici, qui est a priori, il faudrait faire des recherches, mais ça vaudrait vraiment le coup, un ancien capitaine de navire, ce qui veut dire un armateur. Alors, je ne sais pas si c'était le même genre d'armateur qu'à Caussade, ou pas. Non, pas du tout, c'était pas...
Capitaine ne voulait pas dire armateur.
D'accord. C'était pas, il faisait pas non plus du commerce avec les Antilles, tout ça, c'était pas... Il est capitaine.
Il est associé,
oui.
Mais il peut n'être que salarié.
Il peut n'être que salarié, oui. Alors, bon,
il gagne bien sa vie parce qu'il a un droit de trafic.
D'accord.
Il ne paie pas de droit.
C'est ça.
Il est
extrêmement riche parce que le prix de 87 800 livres est quand même énorme. Et donc voilà, c'était la question. Mais en tout cas, il était lié, c'était quelqu'un qui était lié au commerce avec Saint-Domingue, forcément. Le commerce du minot, des céréales, qui était fait par de nombreuses personnalités de Caussade. Les deux autres couvents, Capucins, Génovéfin, est bloqué par la mairie. Alors les Capucins, c'est pour faire l'école des garçons. Génovéfin, c'est pour y installer le presbytère. En réalité, pas du tout, apparemment, puisque ça devient la maison commune très rapidement. Et la mairie, qui est le musée actuel, reste à l'abandon avec la tour qui est écroulée, qui n'est pas réparée, etc., jusqu'à l'arrivée de Viollet-le-Duc. Voilà pour cette première partie des événements révolutionnaires à Saint-Antonin, et je m'en tiens là, je ne vais pas plus loin dans la chronologie, je trouve que ça fait déjà pas mal. Alors, en conclusion, pour essayer d'ouvrir un petit peu par rapport aux réflexions de M. Amalric aussi, qu'est-ce qu'on peut penser de la révolution à Saint-Antonin ? Donc on voit très nettement que à Saint-Antonin il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu d'affrontement, rien de qui en tout cas qui transparaisse, que la ville a su, si ce n'est suivre, du moins gérer la période révolutionnaire sans aucun heurt notable. Et on sait évidemment que les choses ne se sont pas déroulées partout, sans parler de Montauban ou de Villefranche, ne serait-ce qu'à Caylus, qu'il en était tout à fait autrement, puisqu'à Caylus, les 14 prêtres étaient suspects contre un seul à Saint-Antonin. Ils ont tous été envoyés à Bordeaux et qu'il y avait 57 suspects au total. Sur Saint-Antonin, deux suspects, donc le fameux prêtre et le comte de Lastic, qui va être lui aussi embêté et passer une année en prison. Mais c'était pas non plus une figure contre-révolutionnaire. Il a prêté serment, s'est fait appeler citoyen. Donc, on se demande pourquoi finalement il est arrêté. Il est arrêté lorsque ses enfants émigrent, ce qui était assez classique. Mais c'est vrai qu'on peut se dire, est-ce que l'engagement de ce fameux de Lastic faisait partie d'une stratégie familiale, pardon? Est-ce qu'il était opportuniste ou sincère? Moi, je pense effectivement pour cette dernière idée, c'est un homme qui était très impliqué dans la société littéraire d'avant la Révolution. Bon, simplement, voilà, au moment de l'émigration des nobles, il a eu comme beaucoup la même peine d'emprisonnement. Ensuite, voilà, comment expliquer finalement le calme qui règne à Saint-Antonin pendant cette période ? Pas de foyer contre-révolutionnaire actif, contrairement à Caylus, contrairement à Caussade, contrairement à Montauban. Il n'y avait pas de contre-révolutionnaire actif à Saint-Antonin. Partout, elle a quand même été alimentée par la religion catholique. Donc ici, on peut effectivement penser que la contre-réforme n'avait pas pris en profondeur et que la société de Saint-Antonin était largement encore marquée par le protestantisme. Et d'ailleurs, bon, c'est vrai qu'au moment de la publication de l'édit de tolérance, on voit apparaître tout d'un coup sur l'état civil tout un tas d'enfants, etc. Donc on peut être sûr que effectivement le territoire était resté attaché au protestantisme et que malgré tous les couvents construits, et bien que voilà, finalement ça n'avait pas pris. Le clergé régulier, visiblement, dans les couvents en tout cas, le clergé régulier était assez ouvert, semblait assez ouvert aux idées libérales, et qu'il a sans doute accompagné le mouvement, à sa manière, le mouvement anti-religieux de la Révolution. Car Saint-Antonin comptait quand même des partisans de la Révolution, comme l'a souligné M. Amalric. Les idées du XVIIIe siècle, elles avaient pénétré les milieux aisés, avec l'intermédiaire, par l'intermédiaire de cette société littéraire et de salons qui devaient se tenir, alors d'après Georges Julien, peut-être pas chez Lastic, mais peut-être au couvent des Carmes même. Il existait également une loge maçonnique, et on sait que dans les loges maçonniques, il n'y avait plus de clivage d'ordre, hein, tout ça n'existe plus. Donc, vraiment, il y a eu une infusion lente et certainement profonde des idées des Lumières. Donc, pour résumer, peu ou pas de contre-révolutionnaires à Saint-Antonin, des notables, des bourgeois, un clergé ouvert aux idées. Du coup, les patriotes ont pu avancer tranquillement leurs idées. Et parfois avec l'appui de la mairie d'ailleurs. Parce qu'il y avait des patriotes actifs à Saint-Antonin, il existait dans la ville une société populaire, qui est un club politique créé sur le modèle du club des Jacobins, composé de citoyens très actifs. Alors actifs, les citoyens actifs, ceux qui payaient des impôts, et puis très actifs parce qu'effectivement ils surveillaient tout ce qui se passait à Paris. La preuve en est, lorsqu'il y a eu le changement de nom de Saint-Antonin pendant la Révolution, en fait le changement de nom de Saint-Antonin a été décidé par la mairie 15 jours après la publication du décret incitatif de la Convention. C'est dire si il y avait certainement cette société populaire, certainement qu'elle surveillait ce qui se passait à Paris et qu'elle devait avoir des appuis pour que la mairie accepte comme ça, sans coup férir, le changement de nom. C'est qu'il y avait peut-être aussi des gens de poids dans cette société patriotique. Bon, et puis une dernière aussi explication à cette absence de heurts de violence sur Saint-Antonin, et ça c'est Monsieur Amalric aussi qui m'a soufflé cette idée, c'est l'isolement territorial. Finalement, le tribunal révolutionnaire siégeait à Rodez, et sans doute Saint-Antonin a fait en sorte de rester hors de vue du tribunal par la géographie, mais peut-être aussi en faisant en sorte de pas trop se faire remarquer, en réglant les choses au fur et à mesure, et de façon à ce que finalement tout se passe sans trop de heurts. Voilà, moi j'ai terminé ma présentation. J'espère ne pas avoir été trop longue, et on va essayer de répondre à vos questions ou observations. Merci.